RCF.
Et à 6h30, le journal, c'est avec vous, Marion Torquebio. Bonjour Marion.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Une mobilisation calme contre la réforme des retraites.
Hier, la troisième journée de manifestation a réuni 750 000 personnes en France selon le ministère de l'Intérieur. 2 millions selon les syndicats. C'est moins que les deux mobilisations précédentes. Plus de 7 800 morts en Turquie et en Syrie et le bilan continue de s'alourdir. L'aide internationale et les secouristes s'affairent à retrouver des survivants dans les décombres après le séisme de magnitude 7,8 qui a fait trembler la terre lundi matin. Et hier à Paris, l'archevêque majeur de Kiev et primat de l'église gréco-catholique ukrainienne a donné une conférence de presse. Il s'est notamment exprimé sur la situation actuelle de son pays alors que la guerre sévit depuis presque un an.
Troisième journée de manifestation contre la réforme des retraites hier.
Et des manifestations relativement calmes. Les cortèges ont réuni 757 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, près de 2 millions selon la CGT et l'intersyndicale. Un dispositif de sécurité d'ampleur a été déployé pour contenir les éventuels débordements. 11 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, dont 4 000 à Paris. Le ministère de l'Intérieur craignait l'intervention de manifestants radicaux dans les cortèges. Et pourtant, depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, il n'y a pas eu d'incident majeur et peu d'affrontements avec les forces de l'ordre. Les syndicats expliquent cela par la nouvelle stratégie des forces de l'ordre plus discrète. Pour Albert Augien, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des mouvements protestataires, ce calme est aussi dû à la très large mobilisation contre la réforme.
Comme il y a ce front syndical qui est uni et qui a une réponse très positive de la population à ce mouvement, c'est incontestable qu'il y a un changement d'attitude. Mais par rapport à l'action des Black Blocs, ça ne change rien, puisque eux, c'est juste la figure de l'autorité qui leur déplaît. Et donc, dans ce travail, si vous voulez, de concertation entre la police et les manifestants, d'une certaine manière, si les Black Blocs avaient voulu agir, ils l'auraient fait de toute façon. Donc, c'est pas le changement d'attitude de la police qui va jouer sur la tactique ou les stratégies des Black Blocs. Voilà, faut distinguer ce qu'est l'organisation de la police par rapport à des manifestants. Donc ça, on peut le changer, mais si vous voulez, par rapport à ce que font les Black Blocs, ça a normalement peu d'effet. Donc ça a beaucoup d'effet sur le caractère pacifique, le caractère tranquille de la manifestation, mais moins sur le choix politique des Black Blocs de s'attaquer à la police ou pas.
Et hier, ce sont les étudiants qui ont rejoint le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. À l'université Rennes 2, plusieurs centaines d'étudiants ont voté hier après-midi le blocage de la faculté de sciences humaines. Des dizaines de tables et des centaines de chaises ont été sorties des salles de cours pour former des barricades. Fabien est élu étudiant pour le syndicat Union Pirate.
La volonté, c'était surtout de donner un coup de fouet à la mobilisation, puis de faire aussi effet boule de neige avec les autres universités. Tout le monde se regardait un peu dans le blanc des yeux en mode « qu'est-ce qu'on fait ?» Et tout le monde attendait un peu que les autres commencent. Bon, il s'avère qu'une fois de plus, Rennes 2 a lancé la dynamique et on voit que derrière, des universités qui étaient hésitantes ont aussi embrayé le pas. Lyon 2, Lille 2, Toulouse 2. On passe un cap, en tout cas, au niveau de la mobilisation étudiante. On passe de deux journées de mobilisation où il n'y avait pas de blocage, où les étudiants rejoignaient un petit peu les cortèges directement sur place, à quelque chose qui prend plus d'ampleur dans les universités. On arrive quand même à des manifestations qui ne sont pas vues depuis 1995 et le blocage tel qu'il a été mis en place hier à Rennes 2, c'était quelque chose qui ne s'est jamais vu depuis 15 ans, quoi. Que des centaines et des centaines d'étudiants spontanément vident toutes les salles de cours et se mettent à bloquer l'université en plein jour, ça, il n'y avait pas eu depuis le CPE.
L'université Rennes 2 gardera porte close jusqu'à jeudi inclus, le temps de remettre les locaux en état de fonctionnement. Les étudiants doivent se réunir en assemblée générale demain soir pour décider des suites à donner à ce mouvement de blocage. Et l'intersyndicale se prépare désormais à la prochaine mobilisation contre la réforme qui aura lieu samedi 11 février partout en France. Et nous vous en parlions hier, le Parlement a finalement adopté définitivement le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, un texte porté par la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher. Il a été voté par le Sénat à 300 voix pour et 13 voix contre. Le projet de loi entend répondre à l'objectif fixé par le président Emmanuel Macron de multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire et de déployer 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050.
Un bilan qui continue de s'alourdir en Turquie.
Le séisme de lundi a provoqué la mort de plus de 7 800 personnes et le bilan ne cesse d'augmenter. Les secouristes sur place manquent de bras pour retrouver les derniers survivants. Quel est l'état des lieux de la situation au CNTR ?
Des photos et des vidéos d'immeubles dévastés en Turquie, des individus hagards dans les couloirs d'un hôpital en Syrie. Le séisme de magnitude 7,8 est une vraie catastrophe humanitaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables. Alors depuis deux jours, c'est une vraie course contre la montre pour retrouver les survivants. Depuis hier, les secouristes sont soutenus par l'aide humanitaire internationale qui vient d'arriver sur place. 45 pays ont proposé leur aide à la Turquie. De son côté, l'Union européenne a envoyé 1185 secouristes dans le pays. Mais les conditions météorologiques sont particulièrement difficiles, entre le froid glacial et la neige. Les habitants sont souvent coincés sous les décombres des bâtiments. En Turquie, par exemple, les autorités ont dénombré près de 5000 immeubles détruits. Malgré l'horreur, certaines nouvelles redonnent espoir, à l'image de ce bébé né lundi et retrouvé vivant sous les décombres d'un immeuble à Janderis, en Syrie. Elle a été prise en charge par les secours, mais les médecins se réjouissent de son état stable.
Et en Turquie, un deuil national a été décrété pour 7 jours.
6h36. Aux États-Unis, Joe Biden vient de livrer son discours sur l'état de l'Union.
Une traditionnelle allocution de politique générale pour défendre son bilan, mais aussi pour commencer à lancer sa campagne de réélection pour 2024. Le président des États-Unis a tenté d'insuffler un message d'espoir aux membres du Parlement, promettant une relance économique pour les classes moyennes. Parmi quelques-unes de ses déclarations, Joe Biden a notamment demandé expressément une loi interdisant les fusils d'assaut. Il s'est également exprimé sur la politique internationale et plus spécifiquement sur la Chine, après l'épisode la semaine dernière du survol d'un ballon chinois sur le territoire américain. L'Amérique agira si la Chine menace sa souveraineté, a promis mardi Joe Biden. Et à quelques jours du triste premier anniversaire de la guerre en Ukraine, Sviatoslav Chevchouk, l'archevêque majeur de Kiev et primat de l'église gréco-catholique ukrainienne, a donné une conférence de presse à quelques journalistes français hier. Il a donné son témoignage sur la situation actuelle dans son pays par l'intermédiaire de l'œuvre d'Orient. Il a dénoncé la brutalité de cette guerre inégale au terme d'une année qui a fait 10 millions de déplacés internes et poussé 7 millions d'Ukrainiens hors du pays. L'archevêque a salué l'héroïsme des moines et des prêtres rester sur place pour aider la population. Il y a deux semaines, sa béatitude Sviatoslav Chevchouk a rencontré le pape avec une délégation interreligieuse ukrainienne. Il a expliqué combien le conflit a été facteur d'unité entre confessions chrétiennes et même d'entraide interreligieuse.
En réalité, aujourd'hui, en Ukraine, toutes les églises et toutes les organisations religieuses, il règne une unité. Afin de travailler ensemble pour la victoire, pour que tous les fidèles s'unissent pour protéger le peuple. Nous avons des cas sans précédent de collaboration lorsqu'il fallait sauver nos prêtres. Nous coopérons ensemble pour sauver les uns les autres, pour s'entraider. Et notre conseil pan-ukrainien d'église, depuis le début de la guerre, protégeait activement sa patrie. Elle est devenue le vivier de collaboration dans les questions humanitaires pour combattre la propagande russe. Nous nous sommes tous unis.
L'archevêque a appelé les Ukrainiens restés en France à témoigner et partager avec les Français leurs douleurs et leurs souffrances. On revient plus en détail sur le message de Sviatoslav Chevchouk dans l'actualité chrétienne à 7h10 avec Étienne Pépin.
Belettes, fouines, renards ou putois, tous sont des mammifères et tous sont considérés nuisibles, peut-être plus pour très longtemps.
C'est en tout cas ce qu'espère la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. La liste ESODE des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts est en train d'être révisée par un arrêté ministériel. Une liste qui n'a pas vraiment de sens selon la SFEPM. Son coordinateur William Travers dénonce une fragilité dans la méthode et une incohérence écologique.
Cette liste, elle sert à identifier des espèces qui peuvent être sujettes à gestion par les organismes cynégétiques en vue de prévenir d'éventuels dommages que ces espèces pourraient engendrer. La démarche n'est presque pas fondée ou en tout cas très grandement biaisée. Et donc, à notre sens, l'intégration de ces espèces sur cette liste ESODE, donc espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ne se tient pas du tout. L'intégration de ces espèces-là sur cette liste, qui donne ensuite lieu à ce que j'appelle de la gestion, mais avec des guillemets, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de la gestion, c'est plus de la destruction. Une mise en œuvre de cette gestion-là, gestion un peu particulière, sans qu'on ait aucune connaissance de l'efficacité de ces mesures de gestion, à la fois sur l'année, années et dans un temps un peu plus long, avec des suivis ou une analyse un petit peu plus scientifique que la seule déclaration des structures cynégétiques en département.
C'est en juillet prochain que la nouvelle liste sera mise en vigueur.
Et vous m'avez appris un mot cynégétique. Merci beaucoup Marion Torquebio pour le journal. On vous retrouve à 7h30.